Bonsoir, spécial élection 2011. Ce soir, pendant 2 heures, c'est-à-dire de 19h15 à 21h, nous allons faire le point avec les acteurs politiques, les observateurs, les analystes et bien sûr les auditeurs sur le déroulement de scrutin à travers la République démocratique du Congo. Dans cette première partie, nous recevons comme invité Franklin Tshiamala, cadre de la majorité présidentielle et vice-président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC. Monsieur Tshiamala, bonsoir.
Bonsoir, M. Président.
Maître Serge Mayamba, secrétaire national de l'UDPS, chargé de relations avec les forces politiques et sociales. Maître Mayamba, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Angèle Makombo, membre de la plateforme dénommée Force de l'opposition réunie au Congo Foresco. Foreco, pardon, plateforme qui soutient la candidature de Léon Kengo Adondo. Elle est présidente de la Ligue des démocrates congolais. Madame Makombo, bonsoir. Voilà, nous allons la voir d'un moment à l'autre. Et bien sûr, l'un des analystes qui nous accompagne tout au long de ce processus, le professeur Edithia Mbokolo, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Il a publié un livre collectif intitulé « Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives ». Bonsoir professeur.
Bonsoir Alain Giron.
Nous n'oublierons pas de prendre vos réactions. Vous êtes déjà très nombreux à nous les envoyer. Augustin Agotré de Bouillon en province orientale. Au-delà de quelques faiblesses constatées dans le déroulement du scrutin, il faut féliciter la CENI car elle a permis au pays d'éviter le pire. Maître Adrien Ilobakwe de Kamanga au Kassai occidental, contrairement aux élections de 2006, ces élections non seulement sont très mal organisées, mais surtout dans une précipitation sans précédent. La preuve est que nous qui sommes à Lukonga, nous n'avons pas à voter contre le bulletin de vote. Quel peut être notre sort? J'aimerais savoir si, avec ce que nous avons vécu ici à Kamanga, presque dans tous les bureaux de vote, dire que les élections sont réellement crédibles et transparentes, avec toutes les irrégularités et fraudes constatées. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 68 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapitre.net.
Les élections se sont déroulées dans le calme d'une manière générale, mais non sans heurts et difficultés dans certaines provinces. Si dans la plupart des bureaux, le vote s'est effectué sans incident, dans d'autres, les électeurs ont été butés à quelques difficultés. Soit c'est le matériel électoral qui n'était pas arrivé à temps et a retardé le début du vote, ou encore c'est l'absence des noms des électeurs sur la liste des votants. Le point sur le déroulement global des scrutins avec vous, Onésime Mukandila.
Le vote s'est déroulé bien à Kalemie, Kipoussi et Kolozi dans le Katanga. Certains bureaux de vote ont ouvert largement en retard dans les communes de Takuba et Kampemba où quelques électeurs n'ont pas voté. Dans le Bandundu, précisément dans les territoires de Kasongolunda et d'Oswe, on n'a pas voté dans les secteurs de Mawangu, Kaungula et dans la cité de Tembo. Il n'y avait pas d'urne et de bulletins de vote. Même situation à Ibongo où il n'y a pas de lampe pour éclairer les bureaux de vote lors du dépouillement. À Bounia, qui sont gagnés en province orientale, le vote s'est déroulé dans le calme. Kivu, il y a eu absence des témoins des partis et beaucoup donné sur la liste à Lubero, ainsi que le manque de bulletins pour les législatives dans certains bureaux à Kichanga. Atmosphère calme signalée à Kale et Bukavu au sud Kivu, ainsi qu'à Kindu dans le Maniema. Au nord comme au sud de l'Équateur, quelques électeurs n'ont pas vu leur nom sur la liste. C'est le cas à Bassankoussou, Lissala et à Karawa, où certains centres ont été délocalisés. Rien n'est signalé à Matadi dans le Bas-Congo. En Bujimaï, par contre, au Kasaï oriental, le vote était sous tension. Certains bureaux n'ont pas ouvert à temps. Pareil à Nandajika. Il y a eu rupture de matériel de vote à Tsimboulou ainsi qu'à Mweta au Kasaï occidental où le calme n'était pas au rendez-vous. Une tension a été signalée à Massinassi Toko à Kinshasa où il n'y avait pas d'isoloir et d'urne à Saint-Boniface. Situation similaire à Mombele où il a manqué de bulletins pour la présidentielle.
Merci Onésime Mukandila. Les incidents, il y en a eu aussi. Prenons cette illustration. 3 morts, 1 blessé et quelques personnes arrêtées, c'est le bilan des incidents survenus ce lundi dans la commune de Kampemba à Lubumbashi. Un bureau de vote au centre Njanja a été attaqué et les urnes incendiées par les assaillants. Les autorités se sont rendues sur le lieu pour faire le constat. Reportage Denise Maéo.
Sur l'avenue victime de la rébellion dans la commune Kampemba à Lubumbashi, trois corps gisent à même le sol. Selon les autorités militaires et de la police, ces personnes tuées font partie du groupe des assaillants qui ont attaqué le bureau de vote à l'école Njanja et incendié les urnes. Après leur opération, la police les a pourchassés et les trois ont été abattus. Un quatrième parmi ces assaillants, lui blessé par balle, était dans une jeep de la police. Toujours selon les autorités militaires et de la police au Katanga, ils étaient au total 11 assaillants équipés d'armes à feu et de lance-pierres. Sept autres sont arrêtés et détenus présentement à la Direction provinciale des services de renseignement ANR. Une enquête est ouverte. Au sujet de leur identité, le gouverneur du Katanga préfère attendre l'issue de l'enquête avant de se prononcer. A noter qu'après notre passage sur l'avenue victime de la rébellion, des coups de feu ont encore été entendus. Certaines sources indiquent que ce serait encore un autre groupe d'assaillants. Pour l'instant, les opérations de vote se poursuivent dans d'autres bureaux de vote. Lubumbashi, Denise Maéo, Radio Okapi.
Merci Denise Maéo. Franklin Samala, vous êtes cadre de la majorité présidentielle et vice-président national de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC. Comment s'est déroulé le vote pour vous?
Merci beaucoup à la Radio Okapi pour l'invitation ce soir. Je me dois de dire qu'au regard de l'envergure de ce processus, 18 400 candidats députés nationaux, 11 candidats députés présidents de la République, 11 candidats présidents de la République, 62 000 bureaux de vote répartis sur 169 circonscriptions dans le pays, 32 millions d'électeurs. Kinshasa à lui seul compte environ 10 334 bureaux de vote répartis sur 782 sites. Et donc, c'est quand même un gigantisme pour lequel il fallait beaucoup de méthodes et beaucoup de maîtrise, gloire au Seigneur. Le Congo ne s'est pas effondré. Ce soir, nous nous rendons compte que les Congolais se sont assumés et sont allés pour exercer leur liberté en toute responsabilité. Je dois noter qu'en tant que candidat moi-même, j'ai parcouru la circonscription de la Lukunga, ma circonscription où je suis candidat. J'ai parcouru près d'une trentaine de centres. Et donc j'ai noté que tout était calme, en dépit de quelques petits incidents liés au fait que les gens, en fait les électeurs qui venaient de temps en temps ne trouvaient peut-être pas leur en fait leur nom sur les listes. Cela a été compréhensible du fait que certains centres avaient été délocalisés. Vous savez, l'enrôlement a pris dans certains centres, en fait sur toute l'étendue, depuis plus d'un mois. Les élections doivent se passer en un jour. Il était normal que les personnes ayant été enrôlées dans un centre soit transféré ailleurs pour permettre aux opérations de se faire sans incident. Alors, tous les restes d'incidents qui sont énumérés, ici et là, incendie des urnes, j'attribue cela à l'expression d'une certaine sociologie d'irresponsabilité, entretenue par une certaine classe politique congolaise, qui n'a pas cessé, vous avez suivi, d'appeler les Congolais à ne pas aller aux urnes, si pas à considérer que l'élection était reportée, si pas simplement à violenter tel ou tel autre.
Il y avait également des cas de bourrage d'urnes qui ont été relevés.
Il faut vérifier ces choses. Je pense qu'il faut les vérifier très bien. Parce qu'en fait, j'ai bien reçu un reportage à Bumbu, dans la commune à Bumbu, ici à la Kuna, où certains témoins se plaignent du fait qu'ils ont vu un responsable assigné déplacer d'un centre à l'autre un lot de bulletins de vote des législatives. Et le responsable centre s'explique. Il dit, mais c'est nous qui organisons les élections. Nous avons reçu ici des lots qui étaient destinés à d'autres centres. Pendant que nous étions en train de les dispatcher dans d'autres centres, les personnes qui sont trop soupçonneuses ont considéré que c'était la fraude et ont arrêté les responsables attitrés des centres qui étaient en train d'acheminer chez eux des lots de listes de vote et on considère que cela a été soit une tentative de fraude ou la fraude proprement dite.
Mais il y a des cas, par exemple, il y a une dépêche qui vient de tomber ce soir de Associated Press qui dit qu'à Goma, au Nord Kivu, les observateurs internationaux ont rapporté plusieurs cas de bourrage d'urnes, selon l'épouse du sénateur américain John McCain, qui est membre d'une équipe d'observateurs indépendants en France et Japon.
Je considère que si les faits comme ça sont établis, il faut appliquer la loi et réorganiser les élections dans ces circonscriptions où des faits comme ça ont été identifiés, en fait, relevés. C'est clair. Mais je dis globalement qu'il ne faut pas se faire la difficulté. Hein, en tout cas, nous avons la CENI a quand même relevé le défi. Le peuple congolais nous a dit c'est la leçon qui sera inscrite pour toujours dans les annales d'élection de notre pays. Le peuple s'est assumé.
Maître Serge Mayamba, vous êtes le secrétaire national de l'UDPS chargé de relations avec les forces politiques et sociales. Le Congo ne s'est pas effondré d'après Franklin Tshiamala, donc tout s'est globalement bien passé. Quelle est votre analyse?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais, avant toute chose, rendre hommage à tous les combattants de l'UDPS qui venaient d'être récemment tué lors du retour du président de notre parti. Les combattants ont été tués tout simplement parce qu'ils s'étaient décidés de venir ovationner leur président. Donc, ils ont soutenu la candidature. Et je voudrais également, étant donné que Radio Okapi est une radio de la paix, et c'est une radio qui contribue énormément à l'émergence des valeurs de défense et des droits humains, dénoncer ce que nous venons d'apprendre tout à l'heure, si cela est vérifié, l'arrestation de M. Franck Diongo, candidat à la circonscription électorale de la Lukunga, au siège de la CENI, Franck Diongo, qui aurait fait l'objet de mauvais traitements en public et qui a été acheminé vers une destination inconnue.
Maître Serge Mayamba, je vous en prie, cela évidemment est à vérifier. Est-ce que vous pouvez revenir sur le déroulement du vote?
Justement, tout cela ayant trait au déroulement du vote, il est important de les évoquer parce que ça fait partie des éléments qui vont nous permettre de faire asseoir nos propos. À propos des élections, je voudrais commencer par rappeler aux auditeurs qui nous suivent les prescrits de l'article 2 de la loi numéro 11-003 du 25 juin 2011, modifiant celle 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections, qui confie à la CENI la mission d'organiser des élections en enrôlant les électeurs, de tenir le fichier électoral, mais que, à la fin, cette disposition exige de la CENI d'assurer la régularité de toutes ces opérations. Lorsqu'on parle de régularité, il ne s'agit pas seulement de demander à la Commission électorale nationale indépendante de respecter le temps imparti dans l'organisation des élections, il s'agit également et surtout de demander à la CENI d'offrir aux candidats et aux électeurs les conditions idoines devant leur permettre de jouer véritablement leur rôle. Or, la tenue des élections a toujours à démontrer que la CENI s'est désorientée du rôle qu'il devait jouer. La CENI n'a pas accompli sa mission. C'est vrai, il y a certaines personnes qui considèrent que le Congo, le temps n'était pas arrêté. Même le reportage que j'ai suivi de Radio Okapi semble accorder beaucoup plus d'importance à d'autres aspects, donc en minimisant d'autres, notamment qui concernent le bourrage et le fait qu'on avait trouvé chez beaucoup de gens des bulletins de vote cochés à l'avantage du candidat numéro 3.
Notre manière.
Donc la manière dont les choses se sont déroulées ne permettent pas de croire qu'il y a eu l'organisation des élections pour répondre véritablement aux besoins de la population. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que l'UDPS a depuis son engagement dans le processus électoral exigé de la CENI l'organisation des élections transparentes. élection transparente en offrant aux électeurs et aux candidats les conditions nécessaires devant leur permettre de pouvoir obtenir de cette institution toutes les conditions possibles liées aux élections démocratiquement tolérables.
Maître Mayamba.
Oui.
Je vous en prie, nous allons être précis. Et juste rappeler à votre intention, à celle des auditeurs qui ont suivi d'ailleurs pendant toute la journée depuis le matin, Radio Okapi perd le point minute par minute de ce processus. Alors, soyez précis. Quand vous dites que la CENI s'est désorientée, vous voulez dire que les choses ont été mal organisées.
Effectivement, d'autant plus que aujourd'hui, Radio Okapi nous a fait état de beaucoup d'électeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes. Donc, c'est l'occasion pour nous de rappeler les précis de l'article 6 de la loi que nous venons de citer, en son alinéa 2, qui exige de la CENI la publication de la liste des électeurs par province et par circonscription au plus tard 30 jours avant la date du début de la campagne électorale. Or, la CENI s'est entêtée à agir conformément à la loi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter.
Merci.
Mais au-delà de ça, monsieur le journaliste, je voudrais vous apprendre, heureusement, que les enquêtes que vous avez menées sur terrain l'ont révélé également. Au moment où nous vous parlons, beaucoup d'électeurs n'ont pas pu remplir leurs devoirs citoyens. Dans une ville comme Kinshasa, où il a plu abondamment jusqu'à la mi-journée, comment pouvez-vous expliquer que le responsable de la CENI trouvé dans les différents bureaux de vote est exigé des électeurs de pouvoir voter jusqu'avant 17 heures.
Merci.
Et tous les bureaux sont fermés. Vous avez fait état dans votre reportage de ce qui s'est passé à la Kifoko. Oui.
Je vous en prie, permettez que je vous arrête à ce niveau. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Mme Angèle Makombo, membre de la plateforme dénommée Force de l'opposition réunie au Congo pour Eco, plateforme qui soutient la candidature de Léon Kingo Adondo. Elle est présidente de la Ligue des démocrates congolais. Madame, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir. Oui. Alors, je suis présidente d'un parti qui sont la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais. Je voudrais juste rappeler que l'ambition au départ était d'organiser des élections apaisées, transparentes et crédibles. Est-ce que l'objectif a été atteint? À mon avis, non. Parce que nous voyons déjà que ces élections ne sont pas apaisées. Quand le sang coule, même d'un seul Congolais, c'est beaucoup trop. Or, il y a eu pas mal de Congolais qui sont morts, de nombreux blessés, et il y a beaucoup de violences qui nous sont rapportées d'ailleurs dans votre bulletin d'information. Vous en avez parlé à Mbujima et à Kananga, Nganangika. Donc, l'objectif n'a pas été atteint. Transparente non plus, parce que un de nos membres nous a rapporté qu'à Kananga, on a arrêté une Jeep contenant des bulletins de vote bien avant les élections. Donc, il y a pas mal d'incidents de ce genre. Et c'est bien ce que nous craignons. Nous, la LIDEC, nous l'avions dit, ces élections risquent d'être pas transparentes. Et c'est à cause de la désorganisation totale. J'ai parlé du cas précis que j'ai vécu aujourd'hui. Moi, je devais voter donc à l'école Sainte-Famille, dans le quartier Rigini, à la commune de Lemba. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y avait une grande affluence, ce qui prouve que les Congolais ont soif de démocratie, ont soif d'exercer leur droit de choisir leurs dirigeants. Et ils étaient nombreux alors qu'il y avait une pluie battante. Mais à cause de la désorganisation, beaucoup n'ont pas pu voter. Les précédents interlocuteurs en ont parlé. Les listes à Sainte-Famille étaient publiées samedi seulement, vendredi soir très tard, donc samedi. Et beaucoup de gens, j'en ai vu, qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes, à qui on disait qu'il fallait aller dans d'autres centres pour aller retrouver leur liste. Et c'était vraiment pour parvenir au bureau de vote. C'était vraiment un parcours du combattant. Et la question que je me pose, c'est que ce n'est pas la première fois que nous organisons des élections dans ce pays, des élections de cette envergure. On a organisé en 2006 des élections de cette envergure, de l'avis de tous, ces élections ont été une réussite sur le plan logistique. Alors la question que je me pose, pourquoi on n'a pas pu faire au moins comme en 2006 ou mieux que 2006? Pourquoi on a cette tendance dans ce pays toujours à regresser au lieu d'avancer? Et je pense qu'il est, il était assez aisé de partir de ce qui avait été fait en 2006 pour essayer de faire mieux, se nourrir des expériences de 2006. Mais là, vraiment, je pense que les choses ne se sont pas bien passées, que la CENI n'a pas relevé le défi qu'il avait à relever. Et on nous avait dit que ceux qui ne retrouveraient pas leur nom sur les listes, c'est d'ailleurs le chef de la CENI qui l'avait dit, Ngoï Moulunda, pourrait voter dans n'importe quel bureau et on établirait des listes de missions. Eh bien, à Sainte-Famille, par exemple, où j'ai voté, les agents de la CENI refusaient que les gens qui n'étaient pas sur les listes votent. Donc, vraiment, je trouve tout cela vraiment regrettable, d'autant plus, comme je le disais, ce n'est pas la première fois que nous organisons ce genre d'élection.
Madame, donc, vous voulez dire, en d'autres termes, qu'il y a eu précipitation et désordre?
Il y a eu désordre, vraiment, c'était dans le bureau même de vote, quand on rentrait dedans, c'était, il y avait l'assesseur, c'était bien tenu, les instructions étaient bien formulées, mais avant d'arriver à ce bureau, c'était un réel parcours du combattant, une bousculade inouïe, c'était chaotique, et beaucoup de gens n'ont pas pu voter. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Ah, la 2006, c'est Zaki Boïté, et Zaki Boïté, la 2006 hein, !» Dire que « Pourquoi ?» et repartir. Donc, c'est ça que je trouve dommage. Alors qu'on aurait pu partir, c'était pas la peine d'inventer la roue, partir de ce qui avait été fait en 2006 et qui avait été bien fait pour faire mieux aujourd'hui en 2011. Merci. Et c'est le contraire qui a été constaté.
Merci, madame. Avant de donner la parole au professeur Eric Yambokolo, Franklin Tiamala, rapidement, vous avez suivi Maître Mayamba et madame Makombo qui pense qu'il y avait précipitation, désordre et que ça a été mal organisé.
Oui, mais je voulais d'abord relever le fait que la qualité des témoins et la qualité d'opposants n'est pas une licence pour considérer qu'on est autorisé à tout faire. J'ajoute, je dis...
Même quand on rapporte certains faits qui sont réels.
J'ai dit ce que j'ai dit, j'assume. Et donc, hier, nous avons été témoins à Bandal de l'agissement d'un certain nombre de jeunes qui passaient d'un centre à l'autre pour arracher les listes qui étaient affichées au motif qu'on leur avait dit que les élections n'auraient pas lieu. Alors, mes témoins dans certains centres, je cite le centre du Kabalo Lingwala, Isangi, centre lycée Tobongisa, à 17h déjà m'ont appelé pour me dire qu'il y avait de moins en moins des électeurs qui arrivaient dans le centre en dépit de la pluie. Nous parlons de quoi? Les candidats que nous sommes, nous avons parcouru beaucoup de centres. Ça dépend maintenant des lunettes que l'on a et de la grille de lecture qu'on s'est imposée. Et donc, arrêtons avec cette espèce de partisans aveugles. Ayons l'habitude de parler objectivement. Ces élections ne sont pas, c'est vrai, parfaites totalement, mais au moins, ces élections nous permettent effectivement de rendre compte que notre peuple avait besoin de s'exprimer, et d'exprimer sa citoyenneté de toute manière responsable, et il l'a fait en dépit de quelques incidents du reste dont on ne peut pas se faire la difficulté.
Professeur Ediki Mbokolo, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Vous avez publié un livre collectif intitulé Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives. Professeur, vous avez suivi les différents acteurs politiques. Quelle est votre analyse par rapport au déroulement des scrutins aujourd'hui?
Non, d'abord, par rapport aux acteurs politiques, je veux dire que c'est normal que au soir d'une élection, il y ait de l'échauffement, de la passion. C'est tout à fait normal et ça se passe comme ça partout. L'un des problèmes que nous avons, en 2006, Radio Capim avait déjà fait l'honneur de venir ici, et nous avons constaté que la CEI de l'époque, la Commission électorale indépendante, avait été très 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 fortement critiquée. Et on se rend compte que finalement le travail qu'elle avait fait avait été un travail finalement très très positif. Alors aujourd'hui, les critiques qui sont adressées à la CENI, est-ce que dans 5 ans, nous dirons que la CENI de 2011 a mieux fait que celle de 2016 ou non? Moi, ce que je constate, c'est que très probablement, il y a eu dans l'organisation des élections un certain nombre de ratés. La CENI a été désignée relativement tard, à peine une année avant les élections, et elle a commencé à travailler, me semble-t-il, relativement tard. Donc il y a un certain nombre de ratés, il y a un certain nombre d'aspects qu'on peut mettre sur le nom de l'improvisation ou de l'amateurisme, et aussi il y a aujourd'hui, ce dimanche, il y a eu des conditions pluviométriques qui ont fait que dans une ville comme Kinshasa, les choses ont été terriblement faussées. Lorsque les élections commencent à 12 heures au lieu de 7 heures, il y a 5 heures qui sont perdues. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces 5 heures? D'autre part, on a relevé beaucoup d'incidents, et je dois dire que même un seul mort pour une élection, c'est un mort de trop. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ces incidents relèvent d'une technicité défaillante? Est-ce que ça relève, au contraire, de l'habitude congolaise que nous avons, que nous connaissons tous, de faire les choses au dernier moment en disant qu'il n'y aura pas de problème, il y a des problèmes? Ou est-ce que, là ça serait beaucoup plus grave, ça relève d'une volonté manifeste de fraude? Donc il faut que les acteurs qui sont autour de cette table listent tous ces événements, qu'on les établisse de la manière la plus précise et qu'on recourt au contentieux pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a des élections locales qui doivent être annulées et recommencées, ou est-ce que c'est l'ensemble du processus électoral qui devrait être recommencé? Auquel cas, ça serait évidemment d'une gravité extrême.
Professeur, il y a beaucoup de cas où les électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes des électeurs, et on a même signalé beaucoup de difficultés pour certaines personnes âgées et non lettrées à voter. C'était très compliqué. Est-ce qu'on peut dire que la prise en charge de l'électeur a été négligée?
Oui, là je crois que nous avons fait un tour dans plusieurs bureaux de vote et on a vu effectivement qu'il y a eu délocalisation de certains bureaux et les gens avaient beaucoup de mal, étant venus tard, vers 14 heures, de retrouver leur nom sur les listes, et on leur disait allez voir à tel endroit peut-être, peut-être à tel autre, peut-être à un troisième, notamment par exemple à Kinshasa, l'un des bureaux a été délocalisé dans 4 bureaux différents. C'est évident que pour de vieilles personnes, des personnes fatiguées, des personnes malades, c'est à peu près impossible de faire 4 bureaux pour finalement retrouver son nom. Donc de ce point de vue, les chefs de bureau, c'est très clair, n'ont pas répondu à l'appel de la CENI, puisque l'appel de la CENI disait si une personne n'est pas sur la liste, il faut quand même prendre son nom.
La communication n'a pas fonctionné.
Donc la communication n'a pas fonctionné. Et donc là, par rapport aux élections suivantes, il faut que des sanctions soient prises, et il faut qu'il y ait des recours possibles le jour même de l'élection, et pas dans un mois lorsqu'au fond, les cartes auront été distribuées et les jeux faits.
Et professeur, dans la plupart des cas, il a été souligné une grande affluence, un grand engouement des électeurs, même si le taux de participation, c'est pas encore maintenant qu'on peut en parler, mais à vue d'œil, dans les différents reportages, il a été souligné un grand engouement. Comment est-ce qu'on peut analyser ça?
Moi, je crois que, contrairement à ce qu'on dit par rapport à l'éducation du peuple congolais, je crois que le peuple congolais est éduqué démocratiquement. Donc, il a respecté les échéances électorales, et donc cette élection-ci était la deuxième grande élection depuis la fin de la guerre civile, et on ne sait pas ce que les gens voulaient, soit confirmer à sa place l'équipe qui a dirigé le Congo pendant 5 ans, soit donner sa chance à une autre équipe, mais c'est très clair que les gens savaient ce qu'ils voulaient faire, et moi j'ai entendu des gens dire nous sommes venus ici pour remplir notre devoir de citoyen, mais aussi pour exercer notre droit de citoyen. Et donc les ratés qu'on a constatés, ce sont des choses extrêmement fâcheuses par rapport à cette mobilisation populaire.
Alors, dernière question, professeur, avant que je ne revienne aux acteurs politiques. Dans beaucoup des cas, il a été signalé plusieurs situations où la population elle-même, sous réserve de vérification, a déniché des bulletins de vote cochés, des cas comme ça. Est-ce qu'on peut dire que la population a vraiment refusé qu'on lui vole ses élections?
Ah, je pense que c'est très clair. C'est un peu la leçon de l'année 2006, où des choses s'étaient passées dans la confusion. Là, on voit que certaines des violences qui ont été rapportées relèvent du fait que les citoyens sont devenus extrêmement lucides et ne veulent plus se laisser berner ou se laisser voler les voix qu'ils ont distribuées à dessein.
Merci, professeur. Par rapport à certaines difficultés rencontrées dans le déroulement des scrutins aujourd'hui, la CENI a fait une communication à la presse. On écoute l'essentiel des mesures avec le rapporteur Mathieu Pita au micro de Michel Kissing-Bangoy.
1. Les bureaux de vote où les opérations se sont déroulées normalement possèdent immédiatement au dépouillement. 2. Ceux des bureaux de vote qui connaissent encore l'affluence et qui sont en cours de processus de vote continuent l'opération jusqu'à l'épuisement des électeurs se trouvant sur la file d'attente, y compris ceux dont les noms ne figurent pas sur les listes alors qu'ils sont détenteurs des cartes d'électeurs portant les noms du site de vote concerné. 3. Des électeurs se trouvant sur le site au bureau de vote pour lesquels les bulletins de vote ont été déclarés insuffisants et dont l'opération de vote a été interrompue sont appelés à rester calmes en attendant les dispositions pratiques qui leur seront communiquées ultérieurement. Et enfin, 4. Les électeurs des sites de vote qui n'ont pas reçu de matériel et qui n'ont pas encore procédé à l'ouverture doivent attendre l'arrivée de matériel.
Maître Serge Mayamba, je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'UDPS chargé de relations avec les forces politiques et sociales. Les mesures que vous venez d'entendre du rapporteur de la CENI vous rassurent-elles?
Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, c'est justement ce genre de propos qui démontre à tout que la CENI n'a pas véritablement joué son rôle. Lorsque le rapporteur de la CENI demande aux électeurs qui se trouvent dans les bureaux de vote où le matériel électoral n'est pas arrivé d'attendre, il ne vous dit pas que ces électeurs vont attendre pendant combien de temps. Ils attendent jusqu'à minuit, ils attendent à ce que le matériel leur arrive un mois après. Lorsqu'ils demandent aux électeurs de rester calmes en attendant que ne puissent être prises des dispositions pratiques, qu'est-ce qu'ils entendent par dispositions pratiques? Et lorsqu'ils demandent aux responsables des bureaux de vote de continuer les opérations jusqu'à l'épuisement des électeurs se trouvant sur la file d'attente, alors que ces opérations se sont déjà clôturées, quel est le sort maintenant de ces électeurs-là qui n'ont pas été reçus? Donc vous voyez que la CENI évolue avec ses processus avec beaucoup d'opacité. Donc la CENI démontre à suffisance qu'elle n'a pas eu à travailler véritablement en prenant en compte les observations qui lui ont été faites. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour contrer ce qui a été dit tout à l'heure par M. Siamala et en quelques lignes par le professeur, lorsque le professeur considère que c'est normal qu'il y ait des échauffements et de la passion de la part des politiques. Je voudrais dire qu'il ne s'agit nullement de passion ni d'échauffement. Les gens sont en train de réagir à une réalité. Donc là, le professeur est en train de se lecture quelque peu simpliste, hein, en tentant d'éliminer une réalité. C'est que M. Franklin a fait également, bon, je comprends, il est dans ce discours politique habituel de la famille politique du candidat numéro 3 qui a tendance même à nier les évidences. Mais je vous donne quelques cas, justement pour vous amener à comprendre qu'il ne s'agit nullement des passions et des chauffements. Moi, qui suis candidat à la Tangou, j'ai voté au centre de vote de l'école EP2 d'Idouka à Kimbanseki. Et jusqu'à environ 13h, quand je quittais ce bureau de vote, certains bureaux n'avaient pas encore commencé à fonctionner. Donc, avant que nous puissions commencer cette émission, il nous a été rapporté qu'il y a des bureaux qui commençaient déjà à fermer sans recevoir les électeurs. Il a été posé, par exemple, le problème des personnes qui n'ont pas retrouvé leur nom à l'école Mazongo, qui ont été renvoyées à Saint-Théophile, au quartier Biela, alors que le nom qui leur était donné, c'était Sénégé. C'est des électeurs qui ne se sont pas retrouvés.
Merci.
Dans votre reportage, vous avez fait état de ce qui s'est passé à Sissoko. Mais je vous apprends qu'à Sissoko, par exemple, il y a eu dans certains bureaux absence de bulletins de vote des candidats présidents de la République. Lorsque vous aurez à procéder à plus d'investigations. Vous allez découvrir, par exemple, le cas Goma, au quartier Ndosso, à l'école primaire La Joie. Il y a eu tentative de bourrage des urnes ce matin.
Mais comment
que la population a réagi.
Excusez-moi. On est limité par le temps. Il nous reste 10 minutes. Il y a 3 autres intervenants. Je vous en prie, veuillez tenir compte du temps, s'il vous plaît. Madame Angèle Macombo, vous avez suivi les différents éléments donnés par le rapporteur de la CENI et la réaction de Maître Mayamba. Faudrait-il déjà se poser des questions sur la crédibilité de ce scrutin?
Moi, je me pose de sérieuses questions parce que qu'est-ce qu'il faudrait encore pour nous faire douter de la crédibilité de ce scrutin? Et la CENI faisait preuve de beaucoup d'assurance en disant qu'ils étaient prêts, que tout allait bien se passer, mais nous voyons que les choses ne se passent pas du tout bien. Et ce que je crains surtout, c'est après. Nous avons eu des exemples récents dans des pays africains, comment la violence éclate et il y a une escalade après les résultats des élections. Et souvent, c'est parce que il n'y a pas de transparence, et c'est le cas que nous vivons à présent. Donc, toute la déclaration faite par la CENI en disant... En voulant rassurer les électeurs, là encore je doute, parce que c'est la même CENI qui avait dit si vous ne trouvez pas vos noms sur les listes, vous pourrez voter. Mais ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce qu'il y a eu un manque de communication ou est-ce qu'il y a eu... On ne sait pas trop. Mais tout cela me fait vraiment douter de la crédibilité des élections et me fait craindre le pire après les résultats des élections. Donc, il faudrait que vraiment la CENI prenne au sérieux tous ces rapports sur les ratés, j'appellerais ça même plus, c'est plus grave même que des ratés, et mettre ça à essayer de limiter en tout cas les dégâts pour que nous n'ayons pas une situation d'embrasement dans ce pays, parce qu'il fallait entendre les électeurs furieux de n'avoir pas pu voter ou d'avoir eu à faire plusieurs centres pour ne pas trouver leur nom. Et moi, vraiment, je crains le pire.
Madame Akombo, il y a Katumbi Kabena de Chabunda en Sud-Kivu qui dit « Coup de chapeau à la CENI, car toute œuvre humaine ne manque jamais des imperfections. »
Alors, ce monsieur, vraiment, a des... se contente de vraiment très 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 peu, parce que quand il y a mort d'homme, je pense pas qu'on puisse comme ça se glosser d'un succès. Et surtout, comme je l'ai dit auparavant, quand on a eu un précédent que la majorité des observateurs ont salué, à savoir sur le plan technique, la réussite des élections de 2006. Donc, dire que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, ça je veux bien, mais il y avait quand même un minimum à faire, et je pense que la CENI ne l'a pas fait, et nous a dit que non, tout est prêt, allons-y, etc., mais la réalité, et là nous avons que certains rapports aujourd'hui, mais je pense que dans les jours à venir, nous en saurons plus. C'est ce qui s'est passé. Par exemple, à Kananga, nous, on a des candidats députés qui demandent à être évacués parce qu'ils disent la tension gronde et monte à Kananga.
Merci.
Et non, ce sont des situations qu'on aurait pu éviter, vraiment.
Merci, Madame Angèle Macombo. Franquin Chamala, la crédibilité et la transparence de ce scrutin sont-elles déjà entassées?
Politique de l'autruche. Les célèbres tisanes. Prophétie de malheur, c'est tout ce que nous avons entendu avant le processus lui-même, avant les émissions proprement dites. On l'a entendu, et ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous devons être sérieux et réalistes. 10334 bureaux de vote, c'est ça. On est parti sur 782 sites. Qui en a parcouru la moitié de ces bureaux? pour estimer qu'après qu'il ait constaté une petite irrégularité dans un centre, cela vaut pour tous les autres centres. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et donc, vous savez, une circonscription comme la Lukunga, c'est plus de 2300 bureaux de vote. Plus de 2300 bureaux de vote. Cela vaut également pour la Sangou, où beaucoup de partis d'opposition n'ont même pas déclaré les témoins. Parce que déclarer les témoins, c'est coûteux. Beaucoup ne les ont pas. Alors, on se fie à quoi? On se fie à quelle déclaration? Non, arrêtons avec cette politique de mensonges et de l'intox. J'ai entendu quelqu'un appeler ce soir au téléphone, je suis venu sur une télévision, disant « Abandal s'attire partout ». Et quand on lui dit « s'attire partout où ?», il arrête. Mais dites-moi, quel crédit peut-on accorder aux gens qui considèrent qu'ils vivent d'une responsabilité illimitée? Non, même s'agissant des gouvernants, la responsabilité est limitée par la loi. Et nous devons considérer que même en étant chef de parti, même quand ce serait un chef de parti venu du ciel, on vit toujours d'une responsabilité limitée. Ayons du respect pour les Congolais, ayons l'amour pour le Congo. Les Congos ne s'est pas effondré, il ne s'effondrera pas demain. Les élections se sont faites, elles sont émaillées de quelques imperfections, mais c'est du reste des choses qui pouvaient être, considérées comme étant prévisibles. Dans un processus où nous avons senti déjà la pression, disons, la pression, depuis que le processus d'enrôlement a commencé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part de l'opposition? Qui avait la tricherie en l'air? Il a suffi que la liste des candidats soit publiée. Tricherie en l'air.
Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, Franklin Tchamala, des cas tels dans le territoire de Masisi, au nord Kivu, ou dans la localité de Gungu, où des militaires ex-CNDP ont voté en lieu et place de
l'État? J'ai dit et je redis que si ce fait s'avère être vrai, il faut que la loi s'applique et que les élections soient refaites dans ces circonscriptions-là. Mais il n'est pas question de généraliser les choses et de soulever la difficulté en disant que ceci doit conduire à l'annulation des élections sur toute l'étendue du pays, de les faire tout. Où est-ce que nous mettons l'argent du contribuable qui a servi à financer ce processus? Près de 200 millions de dollars. Nous en faisons quoi? L'argent des autres.
On va déjà clôturer cette émission, Franklin Tchamala. On commence par vous. N'y a-t-il pas un problème de communication au sein de la CENI?
Il y en a également entre nous, dirigeants politiques et nos membres. Il y en a également entre nous et nos membres. Mais sur la carte des électeurs déjà, Le centre est renseigné, le centre où les candidats est supposé aller accomplir son devoir civique. Combien de chefs de parti se sont donné la peine et peuvent orienter leurs membres? Je dis, il y a un problème, y compris entre nous et nos prétendus membres. Nous devons assumer ces choses et apprendre à nous corriger pour l'avenir et ne pas tout transférer sur les dos de la CENI qui est du reste l'émanation de nos partis. La CENI sort de nos entrailles, non?
Merci. Professeur Elika Mbokolo, à quoi s'en tenir après la journée d'aujourd'hui?
Oui, bon, je vais revenir pour dire que ce que nous attendons, c'est de la raison, mais c'est aussi de la passion. Parce que dans la politique, s'il n'y a pas de la passion, il n'y a pas de politique. Ce n'est pas seulement la raison. La deuxième chose, c'est que les faits dont on parle sont des faits très graves. Donc, il faut, établir ces faits, engager les procédures qui sont prévues, et à la suite de ces procédures, voir si localement on annule un certain nombre d'élections pour les recommencer, ou le cas échéant, si c'est l'ensemble du processus qu'il faut recommencer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre voie, parce qu'on ne peut pas refaire une élection. C'est le contentieux électoral qui va établir tout ça.
Madame Angèle Makombo, quelle est votre conclusion?
J'aborderai dans le même sens que le professeur Mbokolo, parce qu'il ne faut pas juste se lancer dans des déclarations dithyrambiques, il faut partir des faits. Et les faits, nous les avons, il faut se donner la peine de bien les examiner. Quand de bonnes sources oculaires disent qu'à Lubumbashi, en guise de urnes, c'était des poubelles qu'on pouvait ouvrir et fermer, ce sont des réalités. Quand on voit qu'il y a mort d'hommes, ce sont des réalités. Et ça, ce n'est pas des petites imperfections, c'est des morts de Congolais. Alors, en tant que leader de parti politique, soyons aussi sérieux.
Merci.
Prenons la peine d'établir les faits, d'examiner les faits et de mieux faire à l'avenir.
Merci. Maître Mayamba, Serge, en un mot, parce que l'émission va continuer dans sa deuxième partie tout à l'heure. En un mot, je vous en prie.
Oui, je dis tout simplement que ce processus n'a pas été crédible. Et il est pas vite et regrettable d'entendre de la bouche d'un membre du pouvoir que l'opposition n'a pas pu placer de témoins parce qu'il n'a pas pu.
Voilà, merci M. Mayamba. L'émission va juste continuer avec d'autres invités et ce sera dirigé par Kevin Kouté. À tout à l'heure. Le débat politique, c'est dans le dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, c'est sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Bonsoir, nous poursuivons ce spécial dialogue entre Congolais pour les élections 2011 en RDC avec un deuxième groupe d'invités. Il s'agit de Andréana Tundu-Lyogo. Il est cadre de la majorité présidentielle et président de la Convention pour la démocratie et la République. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore là. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Maître Jean-Baudouin Maillot, porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC, lui aussi va nous rejoindre dans un tout petit moment. Maître Guy Kassouva, secrétaire national du MSC, chargé du processus électoral, lui également va nous rejoindre dans un tout petit moment. Avec moi dans ce studio, nous retrouvons une fois de plus le professeur Elikia Mbokolo. Il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Il a publié un livre collectif intitulé « Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives ». Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Komi Toulabor, directeur des recherches au Centre des recherches dénommé des Afriques dans le monde à Bordeaux en France. Il travaille sur les problèmes électoraux et prépare un ouvrage sur les fraudes électorales en Afrique. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci à vous, chers auditeurs, parce que vous êtes déjà nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Trésor Wanadi de Kinshasa. C'est la honte qui dit ceci, c'est la honte pour la CENI d'organiser une élection moins crédible et précipitée que celle organisée en 2006 par la CENI, alors que c'est la deuxième expérience pour la RDC. Kazadi Tchamwa de Lubumbashi au Katanga, la CENI qui a organisé ces élections n'est pas encore mature. Il faudra faire appel aux organisateurs internationaux pour nous aider, car nos choix seront imposés par des hommes qui veulent prendre le pouvoir par la fraude. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-68 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous poursuivons ce spécial dialogue entre Congolais sur les élections 2011 en RDC avec un deuxième groupe d'invités. La réalisation me signale que Andréana Tundu est en ligne. Monsieur Tundu, bonsoir. Nous avons perdu Alain Andréana Tundu. Maître Jean-Baudouin Maillot, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Jean-Baudouin Maillot, vous êtes porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, c'est un parti de l'opposition. Donc, c'est déjà, Maître Maillot, dites-nous quelle analyse vous faites du déroulement du scrutin d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, madame, pour votre question. Je crois que je suis habité par un sentiment de tristesse et de honte. Vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a eu deux élections, c'est-à-dire dans notre pays RDC et en Égypte. Nous sommes branchés sur les chaînes de télévision lorsque nous voyons ce qui s'est passé en Égypte par rapport à ce qui s'est passé ici dans notre pays. Aujourd'hui, c'est déplorable, nous devons nous couvrir de honte. Les élections de ce matin, de cette journée, ont été caractérisées par l'imprécision d'abord. Ensuite, par la violation de la loi électorale et enfin par la fraude qui a engendré les violences. Je commence par l'impréparation. Lorsque on a dit à la CENI qu'elle n'était pas prête, le pasteur Ngoï Moulunda a balayé d'un revers de la main tout ce que les esprits avisés n'arrêtaient de lui dire. C'est regrettable de la part des responsables qui ne veut pas écouter la voix de la raison. Il a affiché un optimisme qu'il ne peut plus justifier aujourd'hui car il a lamentablement échoué. Alors, il y a des électeurs qui se présentent devant des bureaux qui n'existent pas. Il y en a qui se présentent devant les bureaux sans retrouver leur nom. Et les bureaux sont sans témoins et les électeurs qui viennent d'autres avec des bulletins déjà cochés à l'extérieur, ça c'est le fruit de l'impréparation. Alors, par rapport à la violation de la loi d'Adam, il y a des bureaux où les hommes en armes viennent de faire sortir les témoins à l'étape du dépouillement. Il y a des bureaux où les hommes en armes ont carrément pris les urnes, les ont déportés vers des destinations inconnues. Alors, dites-nous à quel résultat nous pouvons nous attendre.
Alors, Maître Maillot, vous parlez des fraudes, de l'impréparation. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous avancez ou vous vous êtes basé sur des rumeurs?
Les preuves, c'est votre propre radio d'abord. Et ensuite, nous-mêmes, nous sommes passés à travers les bureaux. Vous savez qu'à Lubumbashi, ça tirait. Vous savez qu'à Kadagada, le Kasaï occidental, ça tirait. Maintenant, où je vous parle, ça tire à Kintabwa. Il y a un camion qui a tenté de faire entrer des bulletins déjà cochés d'avance dans des centres de vote à Kintabwa. La jeunesse s'y est opposée énergiquement et ça tirait pour les disperser. Ça s'appelle comment? Ce n'est pas la fraude.
Merci, Maître Maillot. Nous vous gardons encore dans cette émission. Maître Guy Katouba, vous êtes secrétaire national du MFC chargé du processus électoral. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, Maître Guy Katouba, de votre côté, comment vous analysez, quelle analyse vous faites du déroulement du scrutin d'aujourd'hui?
Écoutez, moi, de ma part, je ne peux pas vraiment aussi condamner le pauvre pasteur Ngoï Moulunda. C'était prévisible qu'il ne sera pas à la hauteur, même s'il affichait un optimisme brillant. Pour preuve, il était incapable de respecter la loi électorale depuis le début de ses opérations électorales. Je vous dis d'abord que la loi électorale prévoit que le nom des électeurs soit affiché un mois avant le scrutin. Ngoï Moulunda a brillé par la violation de la loi électorale. On a semblé croire que ce sont des petites erreurs de parcours, mais en fait, ce sont des faits qui préfigurent justement les résultats d'aujourd'hui, ce que nous observons aujourd'hui et nous déplorons aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons constaté avec amertume que M. Kabila, le président sortant, ne met plus les gants pour tricher. Et là, il est en train d'agir en force pour brûler les urnes, essayer de s'assurer une majorité alors qu'il sait très bien qu'il n'y a pas plus d'une province qui lui assise. Donc aujourd'hui, là, nous sommes en train de déplorer la tricherie à outrance orchestrée par M. Kabila en complicité avec M. Moulunda. Donc vous comprenez déjà que nous sommes en train de subir ce que nous avons déploré en son temps. Parce que nous savions déjà que le monde ne sera pas à la hauteur. Il y a une différence entre la CI et la CENI. Je voudrais bien ironiser avec un ami qui me disait que c'est la seule différence entre un monsieur la CENI et un monsieur le pasteur. Voyez-vous. Donc, le monde n'a pas hésité un seul instant pour nous assurer qu'il va organiser les élections de manière transparente et crédible. Mais aujourd'hui, là, je peux vous dire qu'avec tout ce qui rapporte votre radio, je suis vraiment étonné de voir que M. Moulunda a continué à s'afficher sur l'écran pour assurer les électeurs alors qu'ils sont détruits lamentablement. Et c'est là que nous devons faire comme conclusion. Je pense que nous devons revenir à ce qu'a dit tout à l'heure, il y a quelques instants, un invité de radio au Capitou, pour dire, réfléchissez sont sur la manière de réorganiser votre type d'élection. Soit qu'on considère qu'il faut rester des élections dans un grand nombre de circonscriptions, soit qu'il faut considérer qu'il faut refaire pratiquement toutes les élections. Parce qu'en fait, M. Ngoumounda nous a fait vivre une parodie d'élections.
Merci, voilà. Maître Guy Katouva. André Alain Tundou, Liongo, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Tundou, vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président de la Convention pour la démocratie et la démocratie et la République. Vous, à votre niveau, comment vous analysez les déroulements du scrutin d'aujourd'hui? Vous avez suivi les cadres de l'UMC et du MLC qui estiment que c'était, on a assisté à l'impréparation, un peu un truc, une élection bâclée. À votre niveau, comment vous analysez ce déroulement?
Il est évident que les élections ont été organisées dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles et qu'elles n'ont pas été parfaites. Mais néanmoins, globalement, la tendance est à considérer ces élections conclusives. Évidemment, chacun des intervenants a donné
sa
version de ce qu'il a vécu.
Mais ça peut vous tromper.
Chacun vit sa propre guerre.
Mais ça peut vous tromper.
D'avoir une évaluation globale pour qu'on puisse apprécier si les incidents accumulés sont de nature à toucher par leur taux la vérité des urnes ou la crédibilité des élections. Aujourd'hui, je pense que c'est encore trop tôt. Nous regrettons tous les incidents qui sont arrivés. Moi, j'ai voté au camp Lucas, mais j'ai constaté par exemple. Il y avait deux candidats députés qui étaient là en train d'inciter les gens au moindre retard, vous voyez.
Monsieur Atundou, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, parce que votre poste récepteur, j'allais dire, parce qu'on a un retour qui n'est pas très agréable à l'antenne. J'espère que vous m'avez compris. Allô, Monsieur Atundou.
Allô.
Oui, Monsieur Atundou, je disais, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, parce qu'on a un retour qui n'est pas très agréable à l'antenne.
Oui, oui. Donc, c'est fait.
Merci. Alors, vous disiez.
J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit.
La qualité du son n'était pas bonne. Est-ce que vous pouvez vous résumer, Monsieur Atundou?
Je me résume. Je dis ceci. Il est évident que les élections ont été organisées dans des conditions difficiles et qu'en tous les cas, elles n'étaient pas parfaites. Mais néanmoins, la tendance globale est que ces élections peuvent être considérées comme plausibles. J'ai entendu les différents intervenants. Si ceux qui disent et ceux qui ont vécu, moi j'ai vécu d'autres réalités aussi qui viennent, n'est-ce pas, enrichir l'expérience électorale. J'ai vu des candidats au camp Lucas en train d'amener les gens au moindre incident, vous voyez, ils sont déjà en train d'expliquer, vous voyez. Donc c'est une journée, une soirée de folles rumeurs. Alors je me dis, dans une guerre, chacun vit sa propre guerre. Personne n'a une vision globale de la guerre. Alors attendons que l'on puisse saisir tous les incidents pour apprécier si leur taux est de nature à entamer la crédibilité et la fiabilité des élections. Je crois qu'il est trop tôt de vouloir condamner tel plutôt qu'un tel. Quand on parle de la tricherie dans le chef de la majorité présidentielle, la majorité présidentielle, au niveau des candidats députés, mais c'est qui? Il y a 1700 personnes chez nous à Lukunga, 1400, pour 13 places. Mais on va tricher en faveur de qui? Donc vous voyez qu'il y a des problèmes réels, qu'il y a des difficultés structurelles qu'il faut regarder avec les yeux d'un homme d'État et pas avec les yeux d'un partisan qui se délecte au moindre dérapage et au moindre à la moindre imperfection que n'importe qui aurait pu commettre.
Alors, monsieur, toujours, on ne parle pas seulement de la tricherie au niveau des législatives, mais au niveau aussi de la présidentielle. Qu'est-ce qu'on pouvait dire par rapport à cela?
Oui, mais c'est ça, c'est la même chose. Hier, j'ai participé à une émission à la RTLC. On nous a présenté un bulletin coché Joseph Kabila. Alors, j'ai posé la question. Mais c'était où, dans quel bureau, etc. aussi te poser la question, est-ce que le bureau n'est pas infiltré par des gens qui ne croient pas aux élections, qui veulent aussi décrédibiliser le processus. Donc, je pense qu'il faut recueillir tous ces éléments et nous avons les observateurs, nous avons la CENI, et qu'ensemble, puis tirer les conclusions de ce fait-là.
Merci André Alain Asumbu, professeur Eliki Ambokolo. Vous étiez déjà avec nous dans la première partie de l'émission. Alors, vous avez suivi les uns les autres les cadres de l'UMC, du MLC, qui déplorent l'organisation de ces élections. Monsieur Asumbu qui parle des élections organisées dans des conditions difficiles. Votre point de vue à ce niveau?
Nous avons donc deux points de vue. L'un qui dit que c'est globalement un échec, échec sur toute la ligne. Et un autre qui dit, monsieur Asumbu, c'est globalement satisfaisant, malgré un certain nombre de ratés. Alors, on fait beaucoup la comparaison avec 2006 en disant que c'était mieux en 2006. Je voudrais rappeler que au soir du 30 juillet 2006, le président de la CEI de l'époque, l'abbé Malumalu, avait été traîné dans la boue. Il avait été insulté, accusé de fraude, accusé de toutes sortes de choses, et aujourd'hui on est en train de le réhabiliter en quelque sorte. Donc il faut relativiser les choses. Ce qui est clair, c'est que quels que soient les partis, on dit qu'il y a eu des incidents graves. Alors ces incidents graves, il faut sortir simplement du discours. La loi électorale prévoit toute une démarche. Lorsqu'il y a des fautes, lorsqu'il y a des abus, lorsqu'il y a des fraudes, il faut les documenter et il faut porter les plaintes là où il faut. De sorte que si le nombre et la gravité de ces fraudes est tel que ça remet en cause le processus électoral, c'est clair, il faut refaire les élections. Si ça ne remet pas en cause la procédure dans son entièreté, il faut peut-être refaire des élections locales, là où il y a eu des fraudes. Si c'est relativement acceptable, dans ce cas, on considérera que ces fraudes représentent un pourcentage tellement mineur qu'on peut considérer les élections comme acquises. Mais ce qui est vrai, c'est que tous ces débats vont entacher la crédibilité du processus. C'est totalement évident. Et je crains que la prochaine fois, en 2016, les électeurs congolais ne soient découragés, écœurés, et comme on l'a vu dans d'autres pays, africains ou autres, dire que finalement cette affaire, c'est entre les politiciens, ils s'entendent entre eux, ils ne nous consultent pas, et que nous assistons à quelque chose de beaucoup plus grave, la désaffection de notre peuple pour les élections démocratiques.
Alors, professeur, est-ce que vous pensez qu'on pourrait refaire ces élections si on estime que les faits sont graves et avérés?
Ah, si les faits sont graves, à partir d'un certain taux, le pouvoir qui sortirait des élections n'aurait aucune crédibilité. Et on peut craindre que ce pays a déjà connu des incidents de ce genre, et d'autres pays aussi, que le recours à la violence soit considéré par certains comme une issue nécessaire. Donc il faut vraiment, je pense, on l'a déjà dit en 2006, il faut établir les faits et les porter selon les procédures prévues par la loi électorale, qui est une loi excellente. Donc, il faut l'appliquer dans son intégralité.
Merci, professeur Eliki Ambokolo. Professeur Komi, tout d'abord, bonsoir. Vous êtes directeur des recherches au Centre des recherches dénommé Les Afriques dans le monde, à Bordeaux, en France. Vous travaillez sur les problèmes électoraux et vous préparez un ouvrage sur les fraudes électorales en RDC. Et comment vous analysez? Vous avez suivi le déroulement des élections aujourd'hui en RDC. Comment vous analysez ce déroulement, professeur, comparativement aux autres pays africains?
Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Cet après-midi, Elikia et moi, on a visité un certain nombre de bureaux de vote dans le quartier Kinsuka, c'est ça?
Dans la commune d'Engalima.
Oui, exactement. Bon, ce que nous avons vu concrètement, bon, moi, me laisse un peu perplexe dans la mesure où j'ai l'impression que c'est une élection qui rappelle tant d'autres élections en Afrique dans sa manière d'être organisée. Et là, un auditeur tout à l'heure parlait d'impréparation. Voilà, on nous a préparé des élections impréparées. Alors bon, ce paradoxe, on le retrouve dans pratiquement beaucoup de pays africains, à l'exception de certains qui sont très, très minoritaires. Sinon, dans la plupart des pays africains, le discours que tient par exemple M. Atungu, ouais, de la majorité présidentielle, ben, j'ai l'impression d'avoir entendu ce discours ailleurs. Et dire que bon, les élections sont globalement acceptables, même s'il y a des imperfections, des irrégularités, elles sont acceptables, mais le problème est de savoir jusqu'où on peut accepter ces irrégularités qui n'entameraient pas la crédibilité de ces élections. Ça, on n'a pas vraiment la solution. Est-ce 5%, 1%, 10%, 15%, 20%, et on recommence, on réorganise les élections? Ça, on ne sait pas. Mais de toute façon, il faudra un jour décider qu'à partir d'un certain seuil d'irrégularité, on recommence les élections, soit globalement, ou alors dans certains bureaux de vote où on a constaté ces irrégularités-là. Bon, moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, on a organisé dans ce pays en 2006 des élections. On a l'impression que c'est dans les mêmes conditions et que je peux prendre le terme de Nietzsche qui parle de l'éternel retour. On a l'impression de l'éternel recommencement et qu'on n'a pas capitalisé sur ce qui a été fait de bien et de mauvais. De mauvais pour corriger, de bien pour reproduire, parce que c'est comme ça qu'on atteint quand même une certaine perfection. Bon. Pourquoi certains pays comme le Ghana, le Mali arrivent à organiser des élections plus ou moins transparentes et crédibles, alors que le Mali et la RDC, institutionnellement, ont le même niveau, mais sur le plan économique, ne pèsent pas. Une élection, c'est le nerf de la guerre aussi, c'est l'argent. Je pense que bon, la RDC a énormément de ressources pour organiser elle-même des élections et ne pas faire recours, appel à l'extérieur. L'extérieur n'est là que pour valider des candidats déjà adoubés, ça c'est clair. Hein. Dans la plupart des pays africains où il y a des problèmes électoraux, très souvent ce que l'on constate c'est que le candidat sortant est adoubé par avance. Et on organise ces élections-là pour cautionner le candidat en place. Et on a l'impression qu'en RDC, bon, le candidat sortant, Joseph Kabila, est adoubé par la communauté internationale et on va solliciter les Congolais pour voter, alors qu'on sait par avance que leur vote n'a aucune signification, mais on a besoin de ce vote-là pour cautionner le candidat qui est là, qui est sortant, et qu'on connaît, avec qui on a certaines habitudes, etc. Et voilà.
Alors, Monsieur Komi, tout à l'heure, vous avez parlé d'impréparation. Est-ce que cette impréparation, on peut dire qu'elle est faite sciemment ou ça se surprend comme ça?
Ouais, tout d'abord, quand on regarde les élections frauduleuses ou les mascarades électorales d'une façon générale, tout est fait consciemment. Parce que bon, ce qu'on appelle faute électorale, il y a une grosse part de conscience, de volonté dedans. Bon, ceci est différent d'erreurs techniques qu'on peut corriger. Or, ce qu'on observe de façon générale, et je pense que ces élections-ci se trouvent dans le même profil, c'est que dès le départ, on a l'impression que l'autorité électorale, la CENI en l'occurrence, mais je sais que derrière la CENI, il y a la présidence, il y a l'intérieur, il y a la défense, il y a toutes ces autorités-là qui entourent la CENI, si bien que bon, on peut poser déjà la question de l'indépendance de la CENI. Mais fermons la parenthèse. Donc, dès le départ, tout est fait pour organiser des élections frauduleuses, ne serait-ce que déjà le choix de la date. On sait que, bon, les élections, c'est une technologie très, très lourde à mettre en place, mais on va essayer de sortir une date très, très rapprochée qui permet de frauder dans la précipitation, etc. Déjà, commence dans un pays où il n'y a pas d'état civil, etc., comment on organise, on fabrique les listes électorales? En amont, déjà, se pose la question.
Merci, professeur. D'une manière générale, les élections se sont déroulées dans le calme selon la CENI. Mais on a observé quelques incidents dans quelques provinces de la RDC. Vous avez suivi dans la première partie de cette émission des incidents observés à Lubumbashi au Katanga. Voyons ce qu'il en est des autres provinces du pays. Le point avec Michel Kifinda.
À Tananga, les électeurs ont cassé et incendié les bureaux de vote au centre Bakole suite à certaines irrégularités constatées. Quelques bulletins pour la présidentielle ont été également brûlés en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Dans la même province, un carton de bulletins déjà coché en faveur d'un candidat à la présidentielle a été intercepté puis brûlé en Gandajika. À Kindu, un agent de la CENI a été surpris hier la nuit par la police avec des bulletins de vote dans son sac. À Lubero, les affrontements entre les FRDC et les Mai Mai Kikuru Kuku ont empêché certains électeurs à atteindre leur bureau de vote, affirment les sources officielles. Dans les Bandundu à Idiofa et à Mangaï, les bureaux de vote installés dans les habitations privées ont été source de violents affrontements entre les militants des différentes formations politiques.
Merci Michel Kissinda pour ce reportage. Maître Jean-Baudouin Maillot, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise. UNC, c'est un parti de l'opposition. Un mot sur l'élément que nous venons de suivre sur les incidents à travers le pays.
Merci beaucoup, madame. Je crois que ce bilan que votre reporter vient de nous présenter, encore qu'il n'est pas exhaustif, démontre à suffisance que les élections organisées aujourd'hui sont absolument et totalement irrégulières. Je crois que mon grand frère Atundu, que j'aime bien, va se faire une bonne conscience pour rien. Lorsque on attrape ça et là, dans plusieurs provinces de la République, des bulletins de vote cochés d'avance. Je crois que la CENI ne devrait pas, à ce moment-là, être fière d'elle. Vous savez, madame, la différence entre les élections de 2006 et de 2011, qui devrait être une amélioration des premières, c'est qu'en 2006, on avait un gouvernement de 1 plus 4. Donc, le pouvoir, arrêter le pouvoir, tout le monde s'est plié. Aujourd'hui, on a un gouvernement dirigé par le président Joseph Kabila seul. Je crois que tout ce qui s'est passé la journée d'aujourd'hui est de sa responsabilité parce que c'est lui le garant de la paix, c'est lui le garant de la Constitution. C'est regrettable. Et madame, comment M. Atundu peut-il expliquer que les militaires s'interposent dans un bureau de vote, prennent les urnes et partent dans des destinations inconnues. Tantôt, évacuent tous les témoins de l'opération de dépouillement. C'est arrivé à Limété, sur la 7e rue, l'école qui est située à la 7e rue Limété. C'est arrivé à Saint-Benoît, à Lemba. Il faut vérifier. Et donc, c'est une élection ratée. Je ne sais pas, un dépouillement fait dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il peut donner comme résultat crédible. Je voudrais dire que l'analyse du dernier professeur, du deuxième professeur qui est chercheur à Bordeaux, m'a beaucoup satisfait. J'ai reconnu un homme de science et un homme plein d'objectivité. Le problème qui se pose dans nos pays trouve sa source à l'extérieur. L'extérieur désigne déjà son candidat président de la République et fait tout pour que celui-ci gagne les élections. Malheureusement, les peuples africains ont ouvert les yeux, ont ouvert l'œil et le bon. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je dois remercier et féliciter le peuple, le vaillant peuple congolais dans toutes les provinces de la République qui a fait preuve de beaucoup de vigilance et grâce auquel nous aurons peut-être, je l'espère, des résultats plus ou moins acceptable dans certaines contrées. Sinon, je pense que pour l'ensemble, l'élection ou les élections se sont déroulées dans un climat non apaisé, dans un climat d'opacité et avec les armes crépitantes.
Alors,
les élections devraient être à refaire si jamais tout le monde avait des yeux pour voir.
Alors, Maître Mario, il y a cet auditeur qui nous écrit de Bounia, en province orientale, qui dit ceci. Au-delà des quelques faiblesses de la CENI, il faut féliciter celle-ci, car elle a permis au pays d'éviter le pire en organisant ses élections à la date du 28, comme c'était prévu dans le calendrier électoral.
Oui, le pire dont il parle, c'est sur le plan juridique, qu'aussi décembre, si on n'a pas un président de la République, ben, vous savez que le monde n'allait pas s'arrêter, encore moins la République démocratique du Congo. Le tout est question de consensus politique. Il vaut mieux avoir de bonnes élections, quoi qu'en retard, qu'un simulacre d'élections comme celle auquel nous venons d'assister. Quand on a parlé de 3 millions de bulletins de vote introduits frauduleusement dans ce pays, la CEDEAO a dû même intenter un procès contre l'un de vos confrères, Moïse, je crois, du journal Le Potentiel, pour ne pas le citer. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a vu comme bulletin de vote coché d'avance, à quoi sert finalement ce procès? Qui avait raison donc? La complicité de la CEDEAO est prouvée dans la fraude. Voilà, madame.
Merci, monsieur Gombodoua Mayo. Maître Guy Katouba, je rappelle que vous êtes secrétaire national du MLC, chargé du processus électoral. Un mot sur le reportage que nous avons suivi par rapport aux incidents rencontrés à travers toutes les provinces de la RDC.
Oui, madame. Écoutez, je dois d'abord réagir sur les propos de monsieur Atundu. Je connais personnellement monsieur André Atundu. Mais je regrette beaucoup qu'il tienne un tel discours sur la place publique. Vous savez, il faut épargner, de se moquer du peuple congolais. Lorsque ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas M. Atundu qui va aller flatter le pouvoir aujourd'hui pour montrer que tout va bien, madame la marquise, alors que nous savons qu'il a vu la même chose sous le régime de Mobutu. Quand il dirigeait la tristement célèbre CNRI, nous savons ce qu'il a fait, ce dont il a été capable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser féliciter ou bien encourager les fraudes et les différentes difficultés que les électeurs ont eues aujourd'hui à pouvoir se rendre et pour voter. Et donc, je dis ceci, madame, il faut dire une chose, ce qui est vrai, c'est que monsieur le pasteur Moïse Lunda est conscient bien échoué. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de réfléchir par rapport à cet échec. Qu'est-ce que nous devons faire? Faut-il refaire les élections dans certaines circonstances ou carrément refaire toutes les élections? C'est là que doit se trouver la problématique. Mais je ne pense pas que M. Moïse ait le courage aussi de déclarer tout, de proclamer le résultat des élections dans ces conditions. Écoutez, madame, lorsque le militaire s'empare des urnes, vous voulez dire qu'il y a eu élection libre. Lorsque les électeurs ne s'affichent pas sur les listes, vous voulez dire qu'il y a eu des élections transparentes. Lorsque les élections n'ont pas été ni libres ni transparentes, il n'y a qu'une seule conclusion à tenir. Il faut refaire les élections. Je pense que M. Moulunda est conscient de ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Toutefois, je veux le dire, que même dans ces conditions, M. Kabila est perdant. M. Kabila, c'est vrai, c'est quoi? C'est que tout ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit dans la logique de M. le président sortant de pouvoir brouiller le processus électoral afin de détruire une réplique des élections, parce qu'il sait très bien que même dans la fraude, il ne peut pas gagner cette élection.
Merci, maître Guy Katouba. Nous vous gardons encore dans cette émission, monsieur Atundu. Comment vous réagissez au propos de maître Guy Katouba, lui, maître, et maître Mayo?
Au propos de maître Guy et de tous les autres. Je voudrais d'abord dire que moi, je suis un homme libre, libre de penser, et donc je refuse, moi, de céder à la tyrannie de la pensée unique. Je vous ai dit que dans une guerre, chacun vit sa guerre. Et généralement, pour faire la globalité, une vision globale, il faut prendre du recul. Et c'était l'essence de mon message. Je dis chacun a enregistré des incidents. Alors, maintenant, on ne peut pas globaliser la portée de ces incidents. Il faut attendre qu'il y ait une collecte, n'est-ce pas, de ces incidents pour savoir si ces incidents sont de nature à vicier la crédibilité et la vérité des urnes. C'est ce que je dis. Et je ne vois pas en quoi cela
est un discours déjà entendu, c'est-à-dire déjà arrangé. Ce n'est qu'une partie de la réalité, comme ce qu'ils ont dit, c'est la partie de la réalité. Alors maintenant, il faut faire l'équilibre pour savoir si il faut reprendre les élections dans une partie du territoire, sur l'ensemble, etc. Ce n'est pas l'émotionnel qui va nous guider pour prendre une position dans un sens ou dans un autre. Je laisse à ce monsieur du MLC qui me connaît mieux que moi, pour savoir les bévues que moi j'ai commis pendant le régime Mobutu, je ne m'en souviens pas, n'est-ce pas? Et je pense qu'ici nous devons nous comporter en homme d'État. Chacun essaye d'éclairer l'opinion avec les éléments qu'il a. Et je pense que ce n'est pas servir la vérité que de verser dans l'émotionnel et dans la tyrannie de la pensée unique.
Mais avec le reportage que nous avons suivi, M. Tundu, sur les incidents dans plusieurs provinces de la RDC, est-ce que ça ne suffit pas comme élément pour dire qu'il y avait eu beaucoup d'irrégularités dans l'antenne de ces
élections? La question est celle-ci. À quel moment, avec quelle densité, il faut déclarer ces incidents comme ayant entaché la vérité des urnes et la crédibilité des élections? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire. Attendons quand même au moins la fin de la soirée.
Ben c'est déjà la fin de la soirée.
Non, c'est pas la fin de la soirée.
Qui ont fermé déjà.
Non, ce n'est pas la fin de la soirée.
Il y a certains bureaux qui ont commencé à fermer.
Oui, mais j'ai dit, je n'ai pas parlé de la fermeture des bureaux, j'ai parlé de la fin de la soirée.
Parce que
à la fermeture des bureaux, on se met maintenant à compter. Voilà, donc la soirée n'est pas encore terminée.
Pour vous, c'est à quelle heure la fin de la soirée?
Non, mais quand ils auront terminé et tiré les conclusions de l'ensemble de la journée.
Alors, M. Atundu, il y a beaucoup de réactions des auditeurs qui nous parviennent de partout. Grâce de ma tête du Bakongo, du ceci, ces élections des fraudes ne sont pas à considérer. C'est la honte, malheureux sont les Congolais que l'on continue à enfoncer dans le gouffre. Angui Zazou de Kisangani en province orientale, je pense que tous les incidents constatés dans les fruits sont les fruits d'une élection organisée dans la précipitation. Cache de Lubumbashi au Katanga, ces élections sont les plus chaotiques depuis l'accession de notre pays à son indépendance. La CENI est devenue un organe partisan au lieu d'être un service technique. Monsieur Tundu.
D'abord, je maintiens que moi, je ne fais pas ici de profession de foi. C'est donc lorsque quelqu'un considère comme acquis ce qui doit être prouvé par l'apport de chacun de nous, c'est pas contre la conviction, rien n'est plus opposé à la vérité que la conviction. Et donc aujourd'hui, nous sommes là. Nous savons que les élections, je l'ai dit, ont été organisées dans des conditions difficiles. Nous savons que les élections ont été un défi national. Nous savons que M. Maillot, qui aujourd'hui dit, écoutez, ça n'aura qu'une conséquence juridique, nous savons que ça n'aurait pas pu avoir que des conséquences juridiques. Lorsqu'on dit que ça s'arrête et qu'on va faire du boucan, on va faire ceci, on va faire cela, il faut considérer les choses dans leur globalité. N'est-ce pas? Les élections sont difficiles, les élections sont ceci. Le problème, c'est le taux. Est-ce que ces élections peuvent être déclarées plausibles? Elles ne sont pas parfaites. Elles sont organisées dans des conditions difficiles. Mais quel est le niveau de l'imperfection? Si c'est 40%, on va dire comme ça, évidemment, oui. Mais si c'est 80%, 75%, on peut discuter. C'est ça. Moi, je refuse qu'on nous refuse le droit de discuter et d'avoir une autre opinion parce qu'ayant vécu d'autres réalités, une réalité qui sera complétée par ce que les autres disent.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent qu'il faudra qu'on fasse ces élections dans certaines contrées où il y a eu quand même des incidents graves comme les bureaux de vote brûlés et des bulletins brûlés?
Mais si, je dis si, telle est la conclusion à laquelle on parvient, ce n'est pas à moi de décider. C'est à la CENI et aux autorités compétentes de dire, voilà, il y a eu tel bureau brûlé, tel bureau brûlé, eh bien, on reprend les élections dans une partie de la République. Toute personne sensée ne peut être que de cette position-là.
Merci, M. Atundu, professeur Elika Mbokolo, et à cet auditeur qui nous écrit de Lausanne, en Suisse. Il dit ceci, nous apprenons qu'il y a eu des cartons de bulletins accrochés en Bouzimaï. Est-ce qu'on peut déjà croire à la tricherie ou pas? Est-ce que la CENI peut-elle mériter encore notre conscience?
Oui, alors, il y a une chose qui va surprendre les gens, c'est que nous parlons sans avoir les résultats. Nous n'avons pas les résultats. Si, supposons que le président du Sénat, Ken Ouédraogo, gagne les élections, on sait quoi? On fait comme si on est sûr que Joseph Kabila a gagné les élections et que la majorité présidentielle a la majorité aujourd'hui. Mais on n'a pas les résultats. On n'a pas les résultats. Lorsque nous avons écrit ce fameux livre, le juge qui a participé à ce livre, qui a parlé du contentieux, a expliqué que la grande faute de ceux qui contestaient les élections de 2006, c'est que d'une part, ils n'ont pas établi les faits, et deuxièmement, ils n'ont pas introduit le contentieux dans les délais. Donc, les délais que nous avons là, c'est le 6 décembre, donc ça fait 8 jours. Donc, moi je dirais à tous ceux qui ne sont pas d'accord, dès demain matin, dès ce soir, commencez à établir les faits et portez-les devant la Cour suprême, je pense que c'est la Cour qui est habilitée à juger de ces faits, pour faire vite, pour que s'il faut refaire totalement ou partiellement les élections, qu'on puisse les refaire dans les délais. Je pense que si on refaisait même partiellement les élections, là où il y a eu des cas tout à fait flagrants, je pense que ça serait une leçon que nous donnerions pour l'avenir et qui montrerait que la tricherie, ça ne paye pas.
Alors, professeur, la réaction, vous n'avez pas répondu à la question de cet auditeur qui dit qu'on aurait appris qu'il y a des bulletins qui ont été cochés à l'avance. Est-ce qu'on peut parler déjà des tricheries ou pas? Est-ce que la CENI mérite encore la confiance de la population si cette histoire était vraie?
S'il y a eu, des bulletins déjà cochés à l'avance, c'est une fraude manifeste, monumentale. Et donc, il faut savoir. Donc, là, il faut établir les faits, où ça a été fait, comment ça a été fait. Et je pense que la CENI, je ne veux pas trop la câbler, je suis persuadé qu'elle a été nommée trop tard par rapport aux élections. La CENI a été établie une année avant les élections. Dans un pays comme le Congo, ça n'est pas possible. Donc, si on accepte ces élections-ci, et par rapport aux élections de 2016, il faut que très vite, une autre commission soit mise en place pour préparer les élections en temps et en heure, et dans de très bonnes conditions. Un an avant, dans un pays comme le Congo, c'est absolument impossible.
Merci, professeur Elika Mbokolo. Professeur, connu tout d'abord beaucoup de réactions des auditeurs. Robert Baume, qui nous écrit de Bukavu, qui vous dit ceci. Le bilan du déroulement des élections de ce jour n'est pas, à mon avis, tout à fait satisfaisant. En effet, dans certains coins du pays, elles se sont passées sans heurts ni incidents majeurs, mais dans d'autres, c'était le contraire. Sans doute, la culture de la démocratie n'a pas encore imprégné nos acteurs politiques. Encore faudrait-il leur apprendre davantage la démocratie pour que les choses aillent prochainement mieux.
Oui, culture démocratique, je ne sais pas ce que ça veut dire et à qui faudra apprendre cette culture démocratique si elle existe. Bon, je voudrais tout d'abord réagir avant de répondre
à
l'auditeur. Ouais, je veux rebondir sur ce que Elikia a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, nous sommes là, nous dissertons comme si on avait les résultats globaux. Or, on ne les a pas. Et on présuppose que bon, ce serait le président sortant. Bon, à supposer que ce soit qui s'était dit qui gagne. Bon, quelque part, ça n'enlève rien à ce que nous sommes en train de dire aussi, à savoir cette irrégularité-là. Est-ce que M. Tshisekedi, s'il était vainqueur, accepterait qu'on réorganise les élections? Alors, sachant très bien qu'il a été élu dans des conditions contestables. Bon, c'est une question que je pose, à savoir que, bon, on est en train de discuter, de disserter, comme si on avait déjà les résultats, mais en même temps, quels que soient les résultats, cela n'enlève rien aux discussions, en fait. Bon, je rebondis sur la question qui a été posée. Non, c'est que, bon, moi, je ne partage pas ce concept de culture démocratique. Je ne sais pas si elle existe, en fait. Mais, par contre, je partagerai le concept de culture politique. Bon, si le concept de culture démocratique existait, je ne suis pas certain que ce soit à la population, au peuple congolais, qu'il faudra l'estiller. Je pense que c'est plutôt les élites dirigeantes qui ont énormément besoin de culture démocratique. Et c'est à ce niveau que ça manque. La preuve, c'est la manière dont ils organisent ce moment essentiel de la vie de la cité, à savoir les élections, ce moment qui permet aux citoyens de désigner ceux qui vont le gouverner, et que ce moment-là est catastrophique à ce que nous observons pour l'instant à travers les faits qui sont rapportés ici et là. La manière dont ce moment est organisé me paraît quand même catastrophique, et pire que ce qui a été le moment précédent, savoir 2006. Alors est-ce que les élites congolaises, comme celle du Togo, du Cameroun, du Gabon, etc., ont une culture démocratique? Il ne faut pas oublier que si on prend ce discours de référence qui est le discours de la Baule, qui prenait la démocratie, la conditionnalité démocratique, c'est la plupart des dirigeants africains à l'époque étaient hostiles à ce discours-là. Donc qu'est-ce qui s'est fait que à un moment donné, ils ont basculé dans la démocratie, sans pour autant l'accepter? Alors, on fait comme si on accepte, mais en même temps, ne pas l'accepter, en boycottant ce moment décisif, à savoir les élections.
Merci, professeur. Maître Maillot, vous avez suivi les analyses des professeurs Elikia Mbokolo et professeur Komi Toulabor. On n'a pas encore les résultats des urnes. L'opposition accuse à la majorité des trichés. Et si aujourd'hui, votre candidat, parce que le président de l'UNC, Victor Kaméré, est candidat à la présidentielle, et sortait vainqueur de ces élections, quelle serait votre réaction?
Nous ne sommes pas dupes, madame. Nous sommes en train d'observer des faits concrets qui nous permettent déjà d'entrevoir l'avenir. Si on veut travailler par hypothèse, comme dans un laboratoire scientifique, on le veut bien. Mais ici, nous voyons l'acharnement d'un pouvoir qui veut s'accrocher, qui ne veut pas des élections libres, démocratiques et transparentes. La CENI est arrivée en retard, bien sûr, mais par la faute de qui? C'est le pouvoir. On a passé trop de temps à discuter ici sur les hommes. Finalement, les mêmes personnes qu'on refusait sont restées en place, on a perdu tous les temps. On a fait voir à la CENI que, de toute évidence, vous ne saurez pas organiser les élections dans les délais impartis. Il fallait rechercher un consensus politique pour retarder les élections, même d'un mois. La CENI n'a jamais voulu entendre la voix de la raison. Elle a fait de sa tête aujourd'hui. Elle fait cogner la tête contre le mur. Et nous le constatons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, madame, des militaires qui viennent prendre les urnes dans des bureaux de vote? C'est écrit dans quelle loi électorale? La CENI va dire quoi de cela? Moi, je crois que il ne faut pas qu'on reste en l'air. Mon grand frère, Atundu Lyongo, il parle de l'évaluation, de la quantification des incidents. Mais moi, je lui dirais de me citer quelle province. Quelle province, je lui dirais que les incidents se sont produits dans toutes les provinces de la République. Il y a eu tentative de fraude partout. Et Dieu seul sait ce bulletin coché d'avance l'était en faveur de quel candidat. Est-ce qu'il est normal dans une démocratie que les bulletins de vote circulent, se retrouvent entre les mains des individus avant même l'élection? C'est des questions que nous devons nous poser, c'est des questions élémentaires. J'ai entendu, je crois, le professeur Elikia Mbokolo dans sa première intervention qui a ramené le débat à peu près entre un abbé et un pasteur. Si ce n'est pas lui, je m'excuse déjà.
Non, c'est pas lui.
Bon, si ce n'est pas lui, je m'excuse. Je crois que c'est mon ami du MLC. Oui, moi je suis protestant. Je connais bien le pasteur Ngoï Mulunda. Je suis couvert de honte. Le pasteur Ngoï Mulunda nous a ridiculisés, nous les protestants. On ne pouvait pas faire moins après M. l'abbé. Aujourd'hui, c'est inqualifiable. Finalement, son acharnement ne l'était que pour le besoin du candidat de son choix.
Merci, maître Jean-Baudouin Maillot. Je constate que vous ne répondez pas, vous n'avez pas répondu à ma question.
Vous voulez que je réponde à quelle question, madame?
Je vous ai posé la question. Si c'est votre candidat qui remporte aujourd'hui les élections, est-ce que vous allez tenir encore ce même langage?
Nous devons travailler sur base des hypothèses. Je vous dis bien sûr oui, mais à la vérité, ce n'est pas possible ce que vous dites là parce que le pouvoir s'acharne à demeurer en place.
Merci.
Par tous les moyens, ça c'est clair.
Merci, maître Maillot. Maître Guy Katouba, je vous repose la même question. Si aujourd'hui un candidat de l'opposition remportait ces élections, vous parlerez toujours de la faute ou de la triche?
Mais écoutez, merci beaucoup d'abord, je vous remercie. Mais je veux vous dire ceci, que vous travaillez là sur l'hypothèse, comme me dit mon confrère M. Maillot. Mais si dans cette hypothèse, je voudrais vous dire que bien avant ces élections, tous les paramètres durant la campagne ont prouvé que M. Kabila ne peut pas gagner ces élections, même pas la faute. Ça veut simplement dire que nous attendons M. Mulunda le 6 décembre de proclamer le candidat de l'opposition comme vainqueur de ces élections, parce que nous savons qu'il n'y a pas deux provinces qui sont acquises à M. Kabila. Mais pour revenir au débat de tout à l'heure, je voudrais dire ceci. Regardez tout ce qui se passe comme fraude, dénoncé même par votre radio, c'est-à-dire des listes de votre cocher d'avance. Ce sont des listes en faveur de M. Kabila. Ça veut simplement dire qu'il y a de l'agitation dans son cas. C'est lui qui n'est pas sûr de gagner. Et imaginez que dans ces conditions, que monsieur le pasteur Ngoumou, dans toute sa sérieuxité, se permette de proclamer un tel candidat vainqueur. Vous savez ce que cela peut entraîner dans ce pays. Je voudrais ici vous dire, monsieur, madame, que nous observons un recul par rapport à l'organisation des élections en 2016. Est-ce que nous sommes en train d'avancer à reculons ou bien nous voulons faire des enjambées? Tout à l'heure, on nous a dit que le Mali et le Ghana sont à même d'organiser des élections, tout en évoluant sur les erreurs qui sont commises dans le passé. Mais chez nous, c'est le contraire. Je pense qu'il aurait fallu laisser M. l'abbé Malumalu continuer pour qu'il corrige les erreurs des élections de l'État. Mais voilà que M. Kouta a été imposé par M. Kabila et il savait que c'était à des fins bien avouées. Aujourd'hui, je voudrais, madame, féliciter le peuple congolais, parce que à cause de la vigilance du peuple congolais, tous les plans machiavéliques conçus sont en train d'être dénichés et le peuple se charge de régler le compte à des personnes qui perturbent les élections. Parce que le peuple a besoin des élections libres, transparentes et démocratiques. Et voilà pourquoi je dis, il faut désormais, aux législateurs congolais, d'envisager des sanctions pénales à l'encontre des organes de la CENI, tout s'avère que les élections ont observé l'heure de leur chef. Il faut qu'on sache les sanctionner des autres. Je pense que dans cette allure, on va évoluer en enjambée, plutôt que d'évoluer en reculant. Voilà.
Merci, maître Katouba. Monsieur Atundou, réaction?
Oui. Moi, ma réaction, c'est que je voudrais le rappeler la recommandation pertinente du professeur Elikia. Et je suis étonné que deux juristes, deux avocats, n'aient pas une attitude judiciaire. La recommandation, c'est laquelle? Un, il faut collecter, récolter les faits, et deux, saisir les organes compétents. Au lieu d'édicter des fatwas, le peuple doit se prendre en charge, décider, prendre, on doit refuser ceci, refuser cela. Ou encore pleurer l'abbé Malumalu, dont tout le monde ici se félicitait du départ. Bon, je pense qu'il faut être tout à fait homme d'État et responsable pour analyser froidement les choses. Maintenant, il y a un élément important que le professeur a relevé. Mais personne n'a gagné les élections. Les résultats ne sont pas connus. Je crois qu'il faudrait tempérer, récolter les faits, et puis saisir les autorités compétentes, c'est elles qui diront dans quelle partie de la République, voilà, ceci n'est pas à toucher à la vérité des jeunes, il faut recommencer. ce ne sont pas nos incantations à la radio ou à la télévision qui vont avoir une incidence judiciaire.
Merci, monsieur Atombo.
Et puis, si vous permettez, le professeur...
Comme tout d'abord.
Excusez-moi, je ne connaissais pas. A parlé de la culture démocratique, laquelle il ne comprend pas. Il comprend par contre la culture politique. Mais je pense que la culture, c'est d'abord la sublimation d'un comportement, des pratiques. Donc, si il y a une culture politique, il y a une culture démocratique, parce que tout ce qui est politique n'est pas démocratique. Donc, je pense que sans entrer dans le débat des hommes de science, effectivement, on peut parler de culture démocratique qui, à l'époque de Wade, n'existait pas parce que nous n'avions pas la démocratie, qui s'est construit aujourd'hui parce que, à cause de nos erreurs, heureusement, peut-être que nous aurons les valeurs essentielles de référence de la démocratie. C'est ça, la culture démocratique.
Merci, M. Atundu. Il nous reste 5 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander de conclure chacun en une minute. On commence par vous, professeur Eliki Ambokolo. Un mot en guise de conclusion.
Alors, en guise de conclusion, je vais ouvrir une perspective. Tant que nous attendons les résultats, imaginons que les résultats sont un peu contradictoires. Tout le monde sait, malgré ce qui se dit, que le Congo n'est pas dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc le président ne peut pas gouverner s'il n'a pas la majorité au Parlement. Imaginons que ça soit X qui soit élu, imaginons que ce soit le président sortant qui soit élu, et que la majorité législative ne corresponde pas à la majorité présidentielle. Nous aurions là, c'est une possibilité qui est tout à fait ouverte, une situation de cohabitation qui peut-être aider à résoudre les problèmes que nous connaissons là. Mais la chose essentielle pour moi, et ça a été la grande leçon de 2006, il faut passer par les procédures judiciaires prévues par le code électoral. D'accord pour se plaindre aujourd'hui, mais demain, il faut établir les faits, aller jusqu'au tribunal, et je suis d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure le maître Katsuba, s'il y a des sanctions à prendre, il faut prendre des sanctions, et s'il y a des élections à recommencer, il faut les recommencer.
Merci, professeur. Professeur Komi.
Oui, je voudrais revenir là sur le consensus électoral. C'est qu'en Afrique, d'une façon générale, surtout dans les pays francophones, il n'y a pas de contentieux électoral parce que l'indépendance de la justice n'a pas de sens dans la plupart de ces pays-là. Si bien que introduire, collecter les faits et l'introduire auprès de la Cour suprême, je veux bien, mais est-ce que cette Cour suprême est en mesure de prononcer le droit? Dans l'expérience qu'on a vécue à travers les pays africains ne me permet pas de répondre positivement à cette question. Par ailleurs, je voudrais dire que moi, je suis toujours étonné.
En 20 secondes, professeur, on a plus beaucoup de temps.
Ah ouais, bon, je termine là. Ça va, vous passez la parole.
Prochainement, on vous aura prochainement dans les différents professeurs. Okay. Maître Maillot, en 30 secondes, votre conclusion.
À Toulouse, c'est frotter les mains pour nous l'envoyer devant les instances judiciaires compétentes parce qu'il sait très bien devant ces instances qui a raison. Il le sait d'avance. La Cour suprême de justice n'est pas indépendante, ça tout le monde le sait. Nous voulons seulement lancer un appel au respect du peuple congolais. Il faut que le peuple congolais désormais s'exprime librement. Et un dernier mot, madame, quand il y a des signes de fraude, cela accuse de la conscience dans le chef de la personne qui veut frauder de son échec.
Merci.
Et voilà ce que je dis en guise de conclusion.
Merci, maître Maillot. Merci, maître Maillot. Maître Guy Katsuba, en 30 secondes aussi rapidement.
Bien, ok, je vais dire ceci, madame, qu'il faut que le pasteur Ngoïmounda fasse très 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 attention avant de proclamer les résultats dans les conditions actuelles. Vous savez vous-même, les incidents qui ont émaillé le procès électoral. Je voudrais aussi stigmatiser le fait que s'il y a des recours à former, ces recours seront portés devant la Cour suprême de justice. Mais malheureusement, vous savez, M. Kadil a lésiné pendant tout le temps. pour nommer le magistrat à la Cour suprême de justice. Finalement, il a fini par...
Merci, maître Katsuba, monsieur Atundu. Conclusion.
En complément à tout ce que viennent de dire les autres intervenants, je voudrais inciter l'élite congolaise à aider la population à croire à la démocratie, à croire à la justice, parce que sans foi, la démocratie n'a pas d'avenir.
Merci, M. Atundu. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, en dessous de programme sur la fréquence de la paix.